stop, c'est parti.
C'est quoi la télé?
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Eh ben, il est 9h40 sur France Inter, le combat des chefs, c'est dans l'instant.
Vous êtes en direct, allez-y.
Chez Spirou, on dit qu'à Fluide Glacial, la bande dessinée n'est que prétexte à vulgarité, grossièreté, faute d'orthographe et autres joyeusetés du même acabit. On dit qu'à la rédaction de ce canard franchouillard, l'hygiène buccale semble rester lettre morte et que la politesse y a toujours trouvé porte close. Chez Fluide Glacial, pendant ce temps-là, on dit que les Belges de Spirou sont gentiment neuneux et propres sur eux. On dessine des barbares qui tabasseraient volontiers des marsipulamis. Quant à Gottlieb, s'il était encore vivant, il ferait du groom Spirou un pervers pépère, affreux, sale et méchant. Ambiance ! Les deux revues cultes de la bande dessinée se cherchent des noises et se crachent de la bière à la figure par numéro interposé. Le rififi franco-belge, figurez-vous, à France Inter, ça nous connaît. On subit quand même Charline et Alex à longueur de semaine. Alors nous, radio de service public tricolore, on va vous aider à régler ça.
L'instant M, Sonia de Villers sur France Inter.
Voilà, deux numéros clash cette semaine en kiosque et pour les abonnés. Si vous nous regardez en vidéo, je vous les montre. Un Fluide Glacial versus Spirou avec un groom très très énervé en couverture. Le groom, évidemment, c'est Spirou. Et un Spirou versus Fluide Glacial avec un super Dupont très très furax en couverture également. Florence Mixel, présentez-vous, bonjour.
Bonjour, donc je suis la rédactrice en chef du journal Spirou.
Voilà, et donc vous êtes côté belge.
Je suis côté belge.
Voilà. Yann Lindingre, présentez-vous.
Je suis top modèle.
Mais c'est bien pour ça qu'on vous a invité. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette galère alors?
Voilà, parler de Fluide Glacial, ma maison.
Ma maison, vous n'êtes pas un peu l'agent double de cette histoire? Vous n'avez pas un peu fauté avec l'ennemi?
Qu'est-ce que vous entendez? on a beaucoup d'agents doubles dans nos équipes respectives.
Oui, voilà, c'est ça. Donc vous n'êtes pas si fâchés que ça les uns avec les autres. D'ailleurs, il y a des failles spatio-temporelles entre vos deux rédactions. Ces pages 12 bis, c'est ça que se produit
C'est ça, qui est une page maudite dans le journal Spirou. Mm-hmm. Donc on n'écrit jamais la page 13 parce qu'elle est maudite depuis des années. Et évidemment, c'est à travers cette page 12 bis que le mal est venu.
Que le mal est venu, voilà. Des dessinateurs ont permuté d'une rédaction à l'autre. Ça leur a permis de régler un certain nombre de comptes. Que les choses soient claires, l'affaire a commencé avec le numéro des 80 ans de Spirou en avril dernier. Florence Mixel. Yann Lindingre, vous l'avez trouvé très mauvais, ce numéro.
Très mauvais numéro, oui. Enfin bon, assez maigre, assez amateur, pour tout dire, voilà.
Bête même.
Oui, on peut le dire, oui.
Oui, et puis vous l'avez très mal pris.
Bah oui, parce que eux, en fait, pour faire un bon numéro, ils ont besoin de faire un numéro géant, alors que nous, les auteurs, ils sont géants pour nous. Et donc, Maître Émile Bravo pour les 80 ans, c'était juste parfait pour nous.
Voilà, exactement. Alors, y a-t-il, pour commencer, puisqu'on va essayer de replacer pour nos auditeurs de tous les âges et de toutes les générations et de toutes les cultures, on va essayer de replacer vos titres dans leur histoire et dans leur héritage. Y a-t-il, pour commencer, tout simplement, un journal pour les petits, Spirou, et un journal pour les grands, Fluides Glaciales. Écoutez ce qu'en pensait Gottlieb.
On parle de BD adulte et c'est une notion que je réfute un peu. C'est pas le fait de faire pipi, caca, prout qui est synonyme de la notion d'adulte. À ce moment-là, tous les mômes seraient adultes. Parce que les mômes, ce qu'ils adorent, c'est justement le pipi, le caca et le zizi et le poum-poum. Pour moi, c'était plus une espèce de libération, de fantasme dont je m'étais, moi, peut-être pas assez libéré aux âges voulus, mais pas du tout un truc BD adulte, c'est de la connerie, ça, pour moi.
Voilà, Gottlieb, fondateur de Fluide Glacial. Quand il est mort, vous lui avez consacré un numéro hommage qui est resté dans les annales. Celui-ci n'a pas été critiqué par Spirou, il a contenté tout le monde. On est d'accord? Voilà, on est d'accord. Alors, est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez replacer Spirou et Fluide Glacial justement dans leur ADN, on va dire? On peut peut-être commencer par Spirou.
Par les vieux, oui.
Alors voilà, commençons par les vieux. Je rappelle votre bande, Florence Mixel, votre bande Land, elle est composée de Fantasio, de Johan et Pierre-Louis, des Schtroumpfs, de Gaston, de Boule et Bill, de Lucky Luke, de Maurice, parce qu'on l'a peut-être oublié, mais Lucky Luke est passé et a grandi dans Spirou. Et puis Zorglub, racontez-nous qui est Zorglub.
Alors Zorglub, évidemment, c'est le méchant, l'inventeur dans Spirou et Fantasio, qui lui-même maintenant fait l'objet d'une série par Minuera, donc il a vraiment été revisité et mis au goût du jour à travers cette nouvelle série. Et voilà, à côté de ça, il y a toutes les séries que vous venez de citer. Et puis, il y a les héros de maintenant qui sont, par exemple, Les Nombrils, qui marchent très, très bien. Je ne sais pas si vous connaissez, ou Luca. Enfin, voilà, il y a plein de séries de maintenant, Dad, Abattable, qui sont vraiment des séries des temps modernes et qui nous font rêver, comme les séries d'hier nous ont fait rêver et nous font encore rêver.
Alors, Spirou, c'est un journal né à la fin des années 30, qui va survivre à la guerre. C'est l'histoire de Jean Dupuis, imprimeur catholique, belge, qui décide de faire, d'entrer en acte de résistance face à l'hégémonie à venir de la bande dessinée américaine, qui correspondait pas forcément aux valeurs et aux conceptions qu'il avait de la jeunesse. De cet héritage dit boy scout par vos adversaires, vous avez gardé quoi comme esprit, Florence Mixel?
Alors en fait, on a gardé déjà l'humanisme qui faisait partie de l'ADN de Spirou et la pertinence aussi. Parce que Spirou, en fait, en wallon, ça voulait dire espiègle. Et je pense que le numéro qu'on a fait avec Fluide, c'est aussi une partie de cette pertinence qu'on ne voit pas nécessairement tous les jours dans Spirou, mais qui reste là, qui fait partie vraiment de notre ligne de conduite et de ce qu'on a envie de montrer. Parce que non, Spirou n'est pas neuneux comme ils peuvent le dire. C'est vraiment...
Mais oui, défendez-vous.
Tout à fait. C'est vraiment pour nous un journal qui parle aussi du monde. C'est juste qu'il en parle pour le tout public, c'est-à-dire à la fois pour les enfants et pour les adultes.
Donc 7 à 77 ans, pour reprendre la formule exactement, la plus galvaudée de la bande dessinée, elle est parfaite. Mon cher Yann Lindingre, je rappelle votre bande à vous. Elle est beaucoup moins fréquentable chez Fluide Glacial. Elle est composée des Bidochons, de Super Dupont, de Carmen Crue, de Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, qui s'étaient attiré les foudres de l'extrême droite, ce qui faisait évidemment très très plaisir.
Oui, les derniers soubresauts des intégristes,
oui. Oui, oh bah, ils sont jamais très loin en même temps. Êtes-vous donc le cousin diabolique de Spirou, comme Florence Mixel semble le penser, l'écrit dans son édito?
Oui.
Déjà, elle reconnaît un cousinage.
Oui, il y a un cousinage. Et c'est vrai que Marcel Gottlieb, qui a créé ce journal Fluide Glacial avec son copain d'enfance, Jacques Diamant, que je salue.
Et donc on était en 75. Gottlieb avait juste créé l'Écho des Savanes trois ans auparavant.
Il avait créé l'Écho des Savanes et je crois savoir que le comptable était parti avec la caisse. Son associé Mandrika était parti aux États-Unis. Il y avait Bretéché aussi qui était dans l'affaire, qui avait jeté l'éponge en même temps que lui.
Claire Bretéché, ouais.
Et Gottlieb provenait d'un journal plus davantage jeunesse qui était Pilote, après qu'il a fréquenté après avoir travaillé à PIF, à Vaillant. Donc Gottlieb provenait de la bande dessinée jeunesse, vraiment. Même s'il réfute la bande dessinée adulte, c'est quand même Harakiri qui lui a donné envie de cette liberté de ton. Et c'était quand même de la bande dessinée adulte, quoi qu'on en dise, quoi qu'il en dise, avec tout le respect que j'ai pour lui. Et ce qui est très marrant, c'est qu'à l'époque, il y avait quand même une censure d'État. Je crois que c'était encore Marcelin, me semble-t-il. Hein, et simplement, ça passait pas sous les fourches codines de la censure d'État, parce que justement, le ministère de l'Intérieur considérait les journaux de bande dessinée comme de la littérature pour les enfants. Donc, de toute façon, il mettait pas le nez dedans, contrairement à Charlie ou Harakiri qui était complètement
évidemment
épié.
Évidemment. Donc de manière tout à fait clandestine, on a pu faire passer des choses absolument effroyables dans les pages de
Fluide Glacial. C'est ce que disait Gottlieb, et on pouvait mettre ce qu'on voulait, ils s'en foutaient, ils regardaient pas, pour eux c'était de la bande dessinée pour les bébés, quoi.
Alors j'aimerais bien que l'un et l'autre vous nous racontiez qu'est-ce que l'école de Marcinelle, puisque Marcinelle, cette commune a été le théâtre, c'est ce que raconte Fluide Glacial, d'affrontements épouvantables. Il a fallu faire venir des pompiers avec des lances arrosant de bière, parce que la bière coûte moins cher que l'eau en Belgique, les manifestants absolument déchaînés. Bref, qu'est-ce que c'est que l'école de Marcinelle?
C'est des dessins où on voit en dessous de la chaussure quand les personnages marchent.
C'est-à-dire
Quand on les regarde marcher, un peu comme Gaston, il lève le pied, puis on voit en dessous, on voit la semelle.
Ah,
voilà.
C'est ça.
C'est tout, ouais.
C'est ça, un peu comme Emmanuel Macron, quand il arrive sur la scène le soir de son élection, hop, on voit les dessous de sa chaussure. Florence Mixel, vous avez une explication un tout petit peu plus pédagogique de l'école de Marcinelle.
Alors, l'école de Marcinelle, c'est ce qu'on appelait l'école Grenet, parce qu'à l'époque, c'est vrai que tous les personnages avaient plutôt un Grenet. Après, maintenant, c'est vrai que ça a changé chez Dupuis. Tous les personnages n'ont plus un Grenet et ça a vraiment évolué. Mais ce qu'on appelait l'école de Marcinelle, c'était ça. Et c'était opposé à la ligne claire qu'on retrouvait plutôt chez Tintin.
Ah, très bien. Alors voilà, on va en parler justement parce que j'aimerais bien que vous écoutiez ce dessinateur mythique qui s'appelle Franquin, qui lui s'est pas beaucoup embarrassé des rivalités.
Gentil, Franquin.
Voilà, donc lui, il a gratté des planches sans ciller dans les deux maisons. Il a même pactisé avec d'autres ennemis du journal Spirou, puisqu'il y a eu une autre grande rivalité entre Spirou et Tintin. On écoute Franquin.
Non, je crois qu'à la base du métier, il y a le plaisir de dessiner. Pour certains, pour moi par exemple, le vice de dessiner, c'est à l'état de vice. Et puis la bande dessinée est un métier qui s'est imposé un peu plus en quelques années qu'il n'était il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans par exemple. Quand j'ai commencé ma carrière, il y avait Hergé et Disney. Et ici en Belgique, il y avait Hergé qui nous a un petit peu attiré l'attention des jeunes dessinateurs sur la possibilité de faire une carrière de bande dessinée.
Voilà, c'était Franquin que vous entendiez. Alors, il y a même eu, il y a très longtemps de cela, à l'époque où le journal de Tintin existait encore, Florence Mixel, un pacte de non-agression entre le journal de Spirou et le journal de Tintin. Donc, à l'époque, les deux écoles rivales, c'était Tintin et Spirou. Qu'est-ce qui les différenciait ?
Mais c'était justement le style graphique essentiellement entre les deux et certainement aussi le fait que Spirou avait déjà vocation à s'adresser aux plus jeunes, alors que le journal Tintin s'adressait à un public sans doute un peu plus âgé. Il y avait plus de réalisme aussi qu'on retrouvait dans l'école chez Tintin.
Et un peu plus de liberté, un peu plus de fantaisie chez Spirou que chez Tintin.
En tout cas, beaucoup d'humour chez Spirou. Ça a toujours été la marque de fabrique du journal.
Voilà. Et Franquin, qui s'est fâché avec Jean Dupuis, il a été du côté de chez Tintin, de la même manière qu'il est passé chez Fluide Glacial alors qu'il était chez Spirou. On rappelle juste qui est Franquin. Il n'est pas le créateur de Spirou, en réalité, Florence Mixel.
Non, il n'est pas le créateur de Spirou, mais c'est vrai qu'il a vraiment inventé une galerie de personnages qui, eux, ont été très, très connus, voilà. Comme Zorglub, etc.
Et il a le Marsipulami.
Voilà, le Marsipulami, tout à fait. Et il a aussi été l'inventeur de Gaston, qui est un héros mythique, un héros sans emploi, mais qui a vraiment marqué des générations et qui, encore actuellement, est vraiment important dans la culture populaire.
On va en reparler justement de ce Gaston. Franquin écrit le trombone illustré qui était le supplément de Spirou et il débarque avec ses idées noires à Fluide Glacial. Oui. Yann Lindingre.
Mais pour revenir à la rivalité, enfin entre guillemets, entre la ligne claire et puis l'école de Marcinelle, mais pour le cas de Franquin précisément, quand on prend par exemple Hergé qui trimbalait quelques casseroles avec Tintin au Congo ou Tintin au pays des Soviets, etc.
Casseroles pendant la guerre parce que ça a été aussi une des lignes de démarcation entre le journal de Spirou et le journal de Tintin.
Voilà.
Spirou a continué de publier, en même temps a fait acte de résistance et ses patrons étaient arrêtés.
Il y a quelque chose là-dedans d'important. Après, Hergé a fait amende honorable. Hein, il ne faut pas lui faire des procès post-mortem. Mais Franquin a toujours été quelqu'un d'engagé soft. Mais il était contre la guerre. Il le disait, même dans des pages de Spirou. Arrêtez avec les BD, guerrières, ou faites gaffe. Il n'hésitait pas, même si ça ne se ressentait pas forcément dans ses BD à l'époque de Spirou, à prendre position quand un journal se faisait attaquer par des groupes d'extrême droite ou quoi. Il parlait Franquin, voilà, il s'exprimait. Donc, il avait vocation quand même à évoquer son humanisme. Alors, quand il est venu chez Fluide Glacial, bien sûr, c'était avec les idées noires, avec un angle beaucoup plus adulte. D'aucuns disent que c'était suite à une dépression, mais c'était pas forcément que ça. Non, il rigolait beaucoup en faisant les idées noires. Et c'était les deux versants de Franquin, mais il a failli en avoir un troisième. troisième, puisque il s'est rendu à un bouclage d'Harakiri et il ne tarissait pas d'éloge pour Rezer, etc. Et sa femme lui a dit non, quand même pas Harakiri.
Non, là, on va s'arrêter là. Là, c'est la limite. Alors, il y a une tradition dans vos deux journaux, et évidemment le personnage de Gaston, mais aussi celui de Fantasio l'illustre bien, c'est finalement de mettre en scène les auteurs au travail et de raconter les coulisses d'un journal consacré à la bande dessinée. Écoutez comment Franquin fait naître le personnage de Gaston Lagaffe dans le journal de Spirou. C'est Yvan Delporte, qui a été un grand rédacteur en chef du journal de Spirou, qui raconte.
Il est arrivé, il a dit, écoute Yvan, tous les personnages de bande dessinée ont un métier. Lucky Luke est cow-boy, Luc Dernier est aviateur, moi je voudrais faire un héros sans emploi. Et on a mis au point un système par lequel Gaston arrivait sans un mot d'explication. Il y avait un bonhomme dans le milieu d'une page, c'est tout. Et la semaine suivante, ce bonhomme était toujours là, mais plus relax. Et la semaine d'après, il était Gaston.
Voilà, Florence Mixel, rédactrice en chef du journal de Spirou. Il y a toute une tradition de relation avec le lecteur, de concours, de club, de référendum. Il y a aussi le personnage de Fantasio qui est là pour discuter avec le lecteur. Donc finalement, ce lien, il a toujours été mis en image et mis en scène dans les pages du journal.
Oui, c'est vraiment super important parce que justement, c'est ça qui, pour nous, crée la relation avec le lecteur et qui crée l'espèce de familiarité entre le journal et son lectorat. Ça a toujours été à travers des animations et à travers le travail justement des auteurs. Donc il y avait eu le boss à l'époque de Thierry Tallot, Thierry Tallot qui a été le rédacteur en chef des deux magazines Spirou et Fluide.
Ça a été un agent double.
Donc. Un agent double un plus, encore ouais. Ça a été le cas avec l'Atelier Mastodonte, ça a été le cas avec, avec Gaston. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve maintenant avec la page 2 par exemple, de Fabrice et Fab Caro. C'est vraiment, ça fait partie aussi de l'ADN de Spirou et c'est vraiment quelque chose auquel on tient. Et auxquels nos lecteurs tiennent aussi, parce que c'est vrai qu'ils réagissent beaucoup là-dessus.
Alors, Yann Lindingre, depuis que vous vous mettez sur la gueule, depuis plusieurs numéros, rappelons que vous allez régler tout ça le 15 septembre à Bruxelles. Ouais. Bon, alors, forcément, vous allez chez l'adversaire, ça vous prenez des risques, vous allez monter sur le ring et vous allez vous battre journal contre journal avec vos armes, à savoir du papier, des crayons et beaucoup de fantaisie. Oui. En attendant, dans les éditions qui sont sorties cette semaine, vous consacrez tout le début de vos journaux respectifs, justement, à ces règlements de compte. Et également à des journées portes ouvertes, Yann Lindingre.
Des journées portes ouvertes. Alors attendez, il faut que je reprenne.
Ce sont des doubles planches en forme de jeu de loi où on met en scène le sacré bazar qu'il y a dans vos rédactions.
Le jeu de Jean Bajan qui est notamment un des dessinateurs qui participe traditionnellement aux deux titres parce que en faisant les comptes, on s'est rendu compte que il y avait un tiers des auteurs qui avaient travaillé déjà pour les deux maisons. Oui. Donc le constat c'était qu'on avait beaucoup plus de points communs que de divergences et non seulement dans notre cheptel si je puis dire d'auteur mais aussi dans notre manière de fonctionner puisqu'on est deux journaux qui ne faisons pas de publicité par exemple qui avons aussi une économie d'albums puisqu'on on publie par ailleurs des bouquins tirés en général des histoires qui sont prépubliées dans le magazine donc finalement ce qui était intéressant pour nous c'était de ses pieds en fait à travers cette option de guerre d'aller regarder chez l'autre parce qu'on est deux espèces qui se ressemblons.
Alors justement, quelle est la fonction, le rôle, la place aujourd'hui de ces espèces, justement, de ces journaux avec toute une histoire, une tradition hebdomadaire ou mensuelle, dans un marché de la bande dessinée qui est un marché extraordinairement prospère. Les chiffres de vente de la bande dessinée l'année dernière en France défient absolument l'entendement. Alors, quelle est votre place à vous, justement, dans un marché qui se porte si bien en librairie ?
Bah, prospère, je dirais yop la boum.
Hein, oui, yop la boum, parce que 43 millions d'exemplaires vendus l'année dernière, oui, hein, au plus haut niveau depuis 10 ans.
Ouais. Mais bon, il faut pas se fier qu'aux chiffres, hein, c'est tiré vers le haut beaucoup par le manga. Oui. Donc effectivement, nos maisons respectives se portent pas trop mal, mais c'est pas rose pour tous les auteurs non plus.
Hein. Non, les auteurs de bande dessinée, Florence Mixel, s'expriment là-dessus, sur la précarisation extraordinaire de ce qui vit vivent au jour le jour et à mesure des années. C'est-à-dire, on vend beaucoup d'albums, mais en réalité, les auteurs de bande dessinée vendent de plus en plus mal et vivent de plus en plus mal.
C'est vrai que, voilà, je pense que, en tout cas, je parlais pour ma maison d'édition. Oui. Moi, je travaille chez Dupuis, puisque oui. Spirou, ça fait partie oui. de la maison d'édition Dupuis. Nous, nos auteurs, ils ont la chance d'être dans une grosse maison d'édition, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs non plus. Je pense que ça fait quand même aussi une différence. Mm-hmm. Et puis le fait est que avant, c'est vrai que des auteurs comme Franca, ils travaillaient uniquement pour le journal Spirou et la Maison du Puy. Maintenant, la plupart des auteurs travaillent pour de multiples maisons d'édition parce que justement, pour vivre, ils en ont aussi parfois besoin. Mais même si c'est vrai que une fois qu'on a un auteur chez nous, on essaye de le chérir assez pour qu'il ait envie de rester chez nous et de faire un maximum de séries chez nous, mais c'est pas toujours possible. Et puis parfois, ils ont des contacts avec d'autres maisons, donc voilà.
Voilà, Florence peut... Mixel et Yann Lindingre, les chefs du journal de Spirou et de Fluide Glacial qui régleront leur compte donc le 15 septembre à Bruxelles à la fête de la BD. Allez donc assister à ça. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebey.
Bonjour Sonia De Villers. Nos parents ont des attentes sur notre mode de vie, notre manière de vivre en couple, de dépenser notre argent, sur nos orientations sexuelles, nos choix amoureux. Faut-il avoir peur de décevoir ses parents à tous les âges de la vie? 01 45 24 7000.
Et jusqu'à quel âge règle-t-on cela sur un divan de psychanalyste?